Désolé. Bonjour à chacun. Le peuple d'Israël a gravement et profondément fauté en s'engageant sur le chemin de l'idolâtrie que Dieu avait formellement interdite. Le deuxième commandement du Décalogue que vous voyez affiché à l'écran, qu'il interdit, est le plus longuement développé dans le Décalogue après le commandement du sabbat. Tu ne feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Ce seul commandement comprend un quart des mots du Décalogue, avec énumération des formes d'images interdites, des actes de culte à ne pas accomplir devant ces images, et puis la proclamation solennelle de la jalousie de Dieu et aussi de sa sévérité. Un commandement qui sera rappelé par Moïse en avant-propos du Code de l'Alliance. Ces paroles, le peuple les a entendues proclamer directement par Dieu, quand Dieu a déclamé le Décalogue. Et puis elles vont être rapportées par Moïse. Le peuple ne pouvait donc pas ignorer l'importance capitale que Dieu attachait au respect de ce commandement. Et en désobéissant à Dieu par l'idolâtrie du veau d'or, le peuple a donc gravement méprisé Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi complètement rompu l'alliance qu'il venait de contracter avec Dieu quelques semaines auparavant. Une rupture que Moïse va traduire en descendant de la montagne, en brisant les deux tables de la loi. En effet, le péché du peuple est grand. Et bien des indices dans le texte nous le font comprendre. Il y a tout d'abord la sanction prévue par Dieu pour le punir, à savoir l'anéantissement du peuple. Une sanction à laquelle Dieu va renoncer par l'intercession de Moïse. Et puis il y a la rigueur des sanctions disciplinaires mises en œuvre par Moïse pour mettre fin à l'infraction et pour rétablir l'ordre parmi le peuple. Et puis enfin, il y a la longueur et la complexité de la démarche d'intercession de Moïse pour obtenir le pardon de Dieu. Une démarche qui s'étire sur 3 chapitres du livre de l'Exode. Une démarche que nous avons commencé à cerner la dernière fois et que nous allons finir ce matin. Moïse va persévérer. Il va plaider et plaider encore, allant même jusqu'à mettre sa propre vie, son appartenance au peuple de Dieu sur la balance. Mais le pardon de Dieu n'est jamais une formalité, encore moins quand la faute est grave. Et puis nous sommes au début de l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont les bases qui sont en train d'être posées. Et il faut que ces bases soient solides et saines. Il faut que le peuple commence à comprendre qui est Dieu. Sa bonté, certes, mais aussi sa sainteté, aussi sa justice. Qu'il commence à comprendre qu'il est pécheur, enclin au mal. Qu'il commence à comprendre que l'obéissance à la loi de Dieu est pour son bien et non pas le contraire. Qu'il commence à comprendre la valeur de la grâce de Dieu. Ce matin, je vous propose donc un troisième et dernier volet au récit du veau d'or. Et nous allons retrouver Moïse une nouvelle fois sur la montagne. Il est allé sur la montagne pour continuer à plaider la cause de Dieu. Il est allé sur la montagne pour faire, si possible, l'expiation pour le péché du peuple. Et je vous invite à lire un premier passage. Nous sommes au chapitre 33 du livre de l'Exode et je vais lire les versets 1 à 11. Exode 33, versets 1 à 11. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un messager et je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple rétif. » Lorsque le peuple eut entendu cette parole funeste, il prit le deuil. Personne ne mit ses ornements. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple rétif. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais faire, ce que je vais te faire. » Ainsi les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à partir du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Quiconque voulait consulter le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il revenait au camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse est donc en train de dialoguer avec Dieu, de continuer à intercéder pour le peuple. Continuer à intercéder, car juste avant, nous l'avons vu la dernière fois, Moïse avait déjà adressé une demande à Dieu. C'est cette demande que vous voyez à l'écran, chapitre 32, versets 31 et 32. Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leur péché, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Moïse demande donc le pardon pour le peuple, allant même jusqu'à mettre sa vie sur la balance. Et quelle est la réponse de Dieu ? Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit, mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leurs péchés. » Dieu précise tout d'abord que c'est le coupable qui sera effacé de son livre. Et puis dans la première partie du verset 34, Dieu donne l'ordre à Moïse de reprendre la mission, de conduire le peuple dans le pays promis. Des paroles de Dieu qui nous montrent que Dieu n'a pas abandonné ni rejeté son peuple. Mais le pardon n'est pas encore accordé. La faute n'est pas encore expiée. C'est pourquoi Dieu dit dans la seconde moitié du verset 34 qu'il interviendra un jour pour faire rendre des comptes au peuple pour leurs péchés. Si Dieu n'a pas abandonné son peuple, il y a néanmoins des choses qui ont changé et qui vont changer. Il y a aussi des conséquences. Même quand le pardon est accordé, ce qui n'est pas encore le cas ici, il y a toujours les conséquences qui restent. Nous vivons dans un monde profondément marqué par le péché et nous devons vivre jour après jour avec les conséquences de notre péché et aussi avec les conséquences du péché de celles et ceux qui nous entourent. Dieu l'avait déjà dit au verset 34 du chapitre précédent et il le répète ici. Ce n'est plus lui, il le répète au verset 2 et 3, ce n'est plus lui qui marchera devant le peuple, mais son messager, littéralement son ange. Dieu se retire, Dieu prend ses distances. C'est là certainement une des grandes conséquences du péché du peuple. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Le verset 3 nous donne la réponse. Vous êtes un peuple rétif. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Dieu prend ses distances avec le peuple pour ne pas l'exterminer, pour ne pas le consumer par sa sainteté, par sa sainte présence, parce que c'est un peuple rebelle, un peuple à la nuque raide. Et Dieu demande à Moïse de rapporter ses paroles au peuple, qui pour la première fois va manifester quelque chose qui ressemble à de la repentance. Il va le faire en se dépouillant de ses ornements comme Dieu l'avait demandé. Versets 5 et 6, le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple rétif, si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. » Ainsi, les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à partir du mont Horeb. La décision de Dieu de ne plus marcher devant le peuple et de ne plus monter au milieu de lui va se traduire concrètement par la décision que Moïse va prendre. La décision de dresser une tente, la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. C'est là un signe fort que le camp est souillé, que la faute n'a pas encore été pardonnée ni expiée. C'est ainsi et c'est là, à l'extérieur du camp, que Moïse va rencontrer Dieu dans les jours, peut-être les semaines qui vont suivre. Verset 9, quand Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée, signe de la présence de Dieu, descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et là, dans cette tente, hors du camp, Dieu parlait avec Moïse. Et il le faisait d'une manière extraordinaire, puisqu'au verset 11, nous lisons, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a là l'indication d'une intimité qui nous dépasse et que j'ai du mal personnellement à cerner. Verset 7. Le peuple qui voulait consulter Dieu sortait du camp et se rendait à la tente de la rencontre. Et c'est là sans doute que Moïse rendait la justice, comme il avait l'habitude de le faire. Notons au verset 8 et 10 que quand Moïse se rendait dans la tente et que la présence de Dieu était manifestée par la nuée, le peuple qui s'était levé et qui avait suivi Moïse du regard se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Alors tout cela, ce n'est pas fait en un jour, ça a dû prendre un certain temps, un temps pendant lequel le peuple était dans l'incertitude de ce qui allait se passer, dans l'attente de ce que Dieu allait faire, de ce que Dieu allait dire. Un temps pendant lequel Moïse continuait certainement d'intercéder pour le peuple, comme nous l'indique la suite du récit que je vous invite à lire maintenant. Et nous sommes au chapitre 33 et je vais lire les versets 12 à 21. Moïse dit au Seigneur, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple. Pourtant, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » Il répondit, « J'irai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. » Moïse lui dit, « Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre ?» Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je t'ai distingué par ton nom. » Alors Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Il répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Ce dialogue entre Dieu et Moïse nous montre que l'affaire n'est pas close. En fait, à ce stade, pour le peuple, tous les signaux sont au rouge. La faute qu'il a commise a été annoncée au chapitre 32, versets 21 et verset 30, comme très grave. L'alliance qu'il a contractée avec Dieu a été rompue. Un jugement partiel a déjà eu lieu. Un autre a été annoncé. Dieu s'est retiré du milieu de son peuple. Ce n'est plus lui, mais un ange qui marchera devant le peuple. Clairement, Dieu ne semble pas encore disposé à pardonner à ce peuple rebelle, à ce peuple à la nuque raide. Et pourtant, la persévérance de Moïse va payer. Et persévérance, il y a eu. Si nous revenions en arrière, chapitre 32, verset 11, nous lisons « Moïse chercha à apaiser le Seigneur », etc. Chapitre 32, verset 32, « Si tu voulais maintenant bien leur pardonner, dit Moïse. » Et puis il y a tout ce qui se trouve dans le texte, et surtout tout ce que le texte ne dit pas, et qu'il faut situer dans ce dialogue face à face, entre Dieu et Moïse dans l'attente de la rencontre. Et puis maintenant, au verset 13, ici, nous lisons « Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » C'est une belle persévérance. Moïse désire encore mieux connaître Dieu. Il désire que Dieu se révèle à lui et qu'il lui révèle ses voies. Il désire trouver grâce aux yeux de Dieu. Il désire aussi et surtout qu'il en soit de même pour le peuple qui est son peuple en parlant de Dieu. Et que répond Dieu ? Sa réponse au verset 14 ne concerne pourtant que Moïse. « J'irai moi-même avec toi, dit Dieu, et je t'accorderai du repos. » Cette exclusion du peuple dans la réponse de Dieu est sans doute la raison de l'insistance de Moïse au verset 15 et 16, une insistance qui inclut le peuple. « Si tu n'y vas pas toi-même, dit Moïse, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous ? Et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre ? » Clairement, Moïse aime son peuple. Et que répond Dieu au verset 17 ? Il dit, « Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je t'ai distingué par ton nom. » Moïse a persévéré, et lui et le peuple ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va faire précisément ce que Moïse a demandé. Dieu va donc pardonner le peuple. Et devant la réponse favorable de Dieu, Moïse s'emporte et il demande à Dieu l'impensable au verset 18. « Fais-moi voir ta gloire. » Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu va, en tout cas partiellement, accéder à cette demande osée de Moïse. Bien sûr, il ne verra pas Dieu dans toute sa gloire, il ne verra Dieu que par derrière, et encore c'est sa bonté qui passe. Mais il verra quelque chose de Dieu, et il le verra au moment où Dieu va décider de renouveler l'alliance avec son peuple. Et c'est la dernière lecture que je voudrais faire. Nous passons au chapitre 34 et je vais lire les versets 1 à 10. Le Seigneur dit à Moïse, « Taille deux tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne, que ni le petit bétail ni le gros bétail ne paissent devant cette montagne. » Moïse tailla deux tablettes de pierre comme les premières. Puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les deux tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant « le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit, « Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Il répondit, « Je conclus moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes, telle qu'il n'en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » Dieu a pardonné. Il a fait grâce. Et il renouvelle l'alliance avec le peuple. Et tout dans la suite du livre de l'Exode, en particulier la mise en place du tabernacle au milieu du peuple, selon les instructions qui avaient été données avant le veau d'or, nous montre que Dieu a pardonné, même si cela n'est pas dit explicitement dans le texte. Et puis surtout, il y a à la fin du livre de l'Exode, dans les derniers versets du livre, au chapitre 40, il y a la confirmation de tout cela parce que, une fois le tabernacle achevé, cette nuée qui était sur le mont Sinaï va venir recouvrir la tente du tabernacle et Dieu va demeurer au milieu de son peuple. Ainsi, j'aimerais maintenant, avant de faire quelques prolongements encore, souligner quelques différences marquantes et importantes entre les deux alliances, et en particulier entre les deux proclamations du nom de Dieu qui accompagnent les deux alliances. Les différences qui vont souligner la grâce et le pardon de Dieu. Alors j'espère que ça va rendre et que vous allez bien voir le code couleur, mais j'ai mis les deux textes ensemble, les deux proclamations, avec un code couleur pour qu'on puisse comparer et puis pour qu'on puisse voir les similitudes et les différences. Les textes comparés, c'est Exode 20, versets 5 et 6, et puis Exode 34, versets 6 et 7. Exode 20, 5 et 6, tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Ça, c'était avant le veau d'or. Après le veau d'or, le Seigneur passa devant lui en proclamant « le Seigneur, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand par la fidélité et la bonté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Alors pour commenter ces différences et ces similitudes, je vais citer Émile Nicole, que plusieurs connaissent, en tout cas de nom. Il a été pendant un peu plus de trois décennies professeur d'Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique. Il en est encore le professeur émérite. Et il écrit en commentant ces deux versets la chose suivante. Je cite, « La symétrie des déclarations est remarquable. Dans chacune d'elles, on trouve les troisième et quatrième générations de la punition. C'est ce qui est en vert. Et on trouve les mille générations de la bonté. C'est ce que j'ai mis en rouge. Mais dans l'ordre inverse. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. D'abord la sévérité et la bonté en contrepoint pour le deuxième commandement. D'abord la bonté et la sévérité en contrepoint après le veau d'or. Émile Nicole continue. Dans chaque énoncé, Dieu reçoit un qualificatif emblématique. C'est ce qui est en jaune dans le texte. Dieu jaloux pour le deuxième commandement. Et puis Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand par la fidélité et la bonté, après le veau d'or. Et puis un peu plus loin, je termine la citation. Dernière différence marquante entre les deux déclarations symétriques, dans la partie positive, la célébration de la bonté de Dieu à l'égard de ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements est enrichie après le veau d'or par l'annonce de son pardon. Et c'est ce qui est en violet dans le deuxième texte et dont il n'y a rien dans le premier. Il est un Dieu qui garde sa bonté jusqu'à mille générations et qui pardonne la faute, la transgression et le péché. Ce qui paraissait être un drame, et c'en était bien un, se révèle être pour Dieu une occasion de révéler un trait essentiel de sa personne, dont il n'avait jusqu'alors pas pu donner la pleine mesure. Comme ces personnalités qui, dans l'épreuve, révèlent des richesses insoupçonnées, c'est dans l'épreuve du péché inexcusable de son peuple que Dieu donne toute la mesure de sa grâce. Que Dieu donne toute la mesure de sa grâce. Oui, Dieu a fait grâce à son peuple, va faire grâce, a fait grâce à son peuple. Il lui a accordé le pardon par l'intercession de Moïse. Alors que l'accent était sur la sévérité de Dieu, sur sa jalousie, sur sa passion jalouse, dans la déclaration qui accompagnait le deuxième commandement, l'accent est maintenant clairement sur la bonté, sur la grâce et sur le pardon. Il est le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand par la fidélité et la bonté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. Quelle grâce que le pardon de Dieu. Et comme l'écrit Émile Nicole, et je l'ai déjà cité, c'est dans l'épreuve du péché inexcusable de son peuple que Dieu donne toute la mesure de sa grâce. Nous allons terminer avec deux prolongements, deux points et les questions qui vont avec, qui sont soulevées par notre texte. Et j'aimerais premièrement dire un mot sur l'expiation des péchés. Qu'est-ce que c'est que l'expiation des péchés ? L'expiation des péchés, c'est le paiement ou l'effacement de la dette que nous avons contractée auprès de Dieu par notre péché. Quand Dieu expie nos fautes, il efface cette dette que nous avons contractée auprès de lui par notre péché. Souvenez-vous, Moïse était monté auprès de Dieu pour tenter de faire l'expiation du péché du peuple. C'est le verset que je vous ai mis, Exode 32, verset 30. « Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être, peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Alors j'ai eu beau lire et relire le texte plusieurs fois, je n'ai rien trouvé dans le texte qui indique que l'expiation du péché du peuple a été faite. Alors comment se fait-il que Dieu ait pardonné? Dans l'Ancien Testament, l'expiation se faisait par les différents sacrifices que Dieu avait prescrits. Mais problème, ils ne sont pas encore en vigueur à ce moment-là de l'histoire d'Israël, de l'histoire du salut. Ça va venir par la suite. Alors, est-ce que ça résout notre problème? Pas complètement. Parce que même s'ils avaient été en vigueur, en réalité, ces sacrifices n'avaient aucune efficacité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira au chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. » Le sang d'animal n'a aucun pouvoir de ce genre. Mais alors, quelle est la solution à notre problème? À quoi servaient tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance? Comment était obtenue l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient d'autre efficacité que la grâce de Dieu. Or, cette grâce n'est elle-même efficace que par le sacrifice de Jésus. C'est le seul sacrifice capable de purifier les péchés, de détourner la colère de Dieu, d'ôter la condamnation, de faire l'expiation des péchés. Ainsi, le croyant de l'Ancien Testament offrait un sacrifice pour ses péchés, en offrant un sacrifice pour ses péchés, s'en remettait à la grâce de Dieu, et il le faisait par la foi. Il obéissait à Dieu en offrant les sacrifices, en comptant sur sa grâce, sur la grâce promise. Et ce qu'il ne pouvait pas encore savoir, c'est que cette grâce lui était offerte en vertu du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un sacrifice qui pour Dieu était d'une certaine manière acté depuis toujours, puisque Jésus, nous dit un texte dans le Nouveau Testament, est l'agneau de Dieu offert en sacrifice dès avant la fondation du monde. Ainsi, d'une certaine manière, nous pourrions dire que les croyants de l'Ancienne Alliance étaient sauvés par anticipation. Ce n'est pas très beau, ou dire par effet rétroactif, c'est encore moins beau. Mais ça nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Et tout cela, nous le comprenons en particulier avec un texte du Nouveau Testament, c'est Hébreux 9, verset 15. Je lis, « Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent, parce qu'une mort est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. » En croyant par la foi à la grâce de Dieu promise, les croyants de l'Ancienne Alliance ont reçu les biens éternels dont font partie le pardon et l'expiation des péchés. Et ils ont reçu ces choses par le sacrifice de Jésus, par sa mort dont les effets sont aussi pour eux. Ils le peuvent, dit le texte, recevoir les biens éternels que Dieu a promis aux siens, parce qu'une mort, la mort de Jésus, est intervenue grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Les fautes de la première alliance sont expiées par la mort de Jésus et rien d'autre. Ainsi, ces croyants de l'Ancien Testament regardaient par la foi en avant, en comptant sur la grâce de Dieu, et ainsi nous regardons par la foi en arrière vers le sacrifice de Dieu, en comptant sur la grâce de Dieu. Et pour eux comme pour nous, ce qui compte, ce qui fait que Dieu nous pardonne, ce qui fait que nos fautes sont expiées, ce qui fait que nous ne sommes plus sous la condamnation et la colère de Dieu, c'est le sacrifice parfait et pleinement suffisant de Jésus. Comment Dieu a-t-il pu pardonner les Israélites après le veau d'or ? Nous pouvons nous souvenir qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait à de la repentance. Chapitre 33, verset 6, il y a sans doute eu d'autres choses dont le texte ne parle pas. Souvenons-nous de toute l'intercession et toute la médiation de Moïse qui préfigure Jésus comme le seul vrai médiateur pour les hommes et pour leur salut. Et souvenons-nous enfin que c'est le sang de Christ qui nous pardonne de nos péchés et qui nous purifie de toute iniquité, comme le dit l'apôtre Jean dans son épître. Comment a-t-il pu pardonner les Israélites après le veau d'or ? La réponse est par la foi qu'ils avaient mis en la grâce de Dieu. Par la foi qu'ils avaient mis en la grâce de Dieu, une grâce qui leur a été accordée en vertu de l'efficacité du sacrifice de Jésus. Si vous voulez que l'on discute de tout ça, nous reviendrons là-dessus mercredi à l'étude biblique. Nous passons au deuxième et dernier prolongement, dont j'aimerais dire quelques mots rapidement, et qui concerne la question de voir Dieu. À la suite de Moïse, dans la Bible, d'autres hommes, comme David par exemple, ont manifesté le désir de rencontrer Dieu, le désir d'habiter avec Dieu dans la maison de l'Éternel, etc. Le désir de voir Dieu. Mais la Bible est claire. Le pécheur ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est d'ailleurs très explicite dans notre passage, au chapitre 33, verset 20, Dieu dit « Tu ne pourras pas voir ma face ». Il le dit à Moïse, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Et pourtant, comme dans notre passage, certains ont eu des visions de Dieu. Certains semblent avoir vu, en tout cas, quelque chose de Dieu. Qu'en est-il ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? En réalité, à l'image de l'expérience qu'a faite Moïse, il s'agit ici très certainement d'expériences un peu limites, particulières, durant lesquelles certains hommes, certaines personnes, voient Dieu mais de dos, c'est-à-dire qu'ils voient Dieu dans ce que Dieu veut bien montrer, c'est-à-dire partiellement, imparfaitement, mais certainement pas Dieu dans toute sa plénitude. Après la venue de Jésus, cette question de voir Dieu a été enrichie. Et Jésus, par la nouvelle alliance, est celui qui nous révèle pleinement le Père. Il y a beaucoup de références dans le Nouveau Testament à ce sujet. Jésus dira même dans les évangiles, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Mais cette révélation, dans sa plénitude, est encore à venir. Comme beaucoup de choses, il y a un déjà et il y a un pas encore. Nous avons appris à mieux connaître Dieu par Jésus, mais le voir tel qu'il est, c'est encore à venir. Cette révélation dans sa plénitude est à venir et elle fait partie de l'espérance du croyant. Elle fait partie des choses promises dont nous attendons encore la réalisation. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean, je termine avec ce texte, ce beau texte de sa première épître, dit « Bien-aimé, maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, de sa venue, de son retour, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous verrons Dieu dans toute sa gloire, pas seulement de dos, pas seulement une partie de sa bonté, mais dans toute sa gloire, parce que tout ce qui faisait obstacle à ce que nous puissions le voir aujourd'hui aura disparu. Comme le dit la béatitude de Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La foi fera alors place à la vue, et nous verrons Dieu tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Amen. J'en garde un petit peu pour mercredi soir. Je vous invite à quelques instants de silence.